Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin.
Bonjour et bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour une heure et aujourd'hui une heure de sport. Notre émission s'adresse à tous ceux qui n'ont pas fait de sport depuis les cours de PS à l'école. Vous savez, le prof avec son sifflet dans la cour. Tous les jours, ils entendent que l'activité physique c'est excellent, c'est bon pour tout. Certains médecins prescrivent même du sport sur ordonnance. Alors aujourd'hui, on s'y met en oubliant le côté contrainte et punition et en se disant que se mettre au sport, ça peut être que du plaisir et pour sa santé. Et pour sa silhouette. On va en parler avec nos invités, le docteur François Duforez, médecin du sport, et on sera également avec Hélène Bossé, ancienne championne d'athlétisme, ex-entraîneuse de l'équipe de France d'heptathlon, ce qui veut dire cette épreuve, et c'est elle qui va nous entraîner aujourd'hui. Elle a mis au point une nouvelle méthode, gratuite, efficace, et qui visiblement marche pour tout le monde, puisque son élève le plus âgé a 92 ans. Bien sûr, et comme tous les après-midi, tous vos rendez-vous, dans un instant, le à la une avec Elisabeth Assayag. Et on va terminer l'émission avec Anne Cazobon. Bonjour.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, si j'ai un sourire qui va d'une oreille à l'autre, c'est que vous allez nous parler de sexe, de Kamasutra. Ça va être très chaud et en même temps très développement personnel.
Mais oui, ça n'est pas incompatible. On va plutôt même parler du mariage des corps en conscience. Et vous allez voir que le Kamasutra est bien plus qu'un vulgaire manuel de position sexuelle.
N'hésitez pas bien sûr à suivre tous vos rendez-vous en direct sur Europe1.fr ou encore en podcast. Vous nous réécoutez quand vous le souhaitez. Vous pouvez réagir pendant l'émission, hashtag LVDS ou encore sur Facebook, La Vie Devant Soi du vendredi. C'est maintenant.
La Vie Devant Soi sur Europe 1.
Et on commence tout de suite par le à la une avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour à tous et bonjour Isabelle.
Vous nous parlez des grossesses tardives. Alors ce qui vous inspirait, c'est ce qu'on a vu tous dans la presse, la grossesse tardive de l'ex-épouse de Sylvester Stallone, Birgit Nielsen, 54 ans, qui attend son cinquième enfant. Elle n'est pas la seule, hein. Adriana Carambeu, elle est quand même beaucoup plus jeune, 46 ans. En France, Elisabeth, devenir maman à plus de 45 ans, c'est plus si exceptionnel que ça.
Mais non, plus du tout même. Je vais vous donner quelques chiffres. En France, l'âge moyen de la première grossesse était de 24 ans en 1974. Il est passé à 28,5 ans, pour être précise, en 2015. Donc beaucoup plus tard. Pareil pour les grossesses des femmes âgées de plus de 40 ans. Cette année, 2000 Françaises de plus de 45 ans vont devenir maman. 2000. Elles étaient trois fois moins en 1990. Alors, que s'est-il passé? Les progrès de la médecine, bien sûr, mais aussi les femmes qui ont des plus longues carrières qu'il y a 20 ans, qui prennent plus leur temps pour avoir des enfants.
Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de risques après 40 ans? Je crois qu'on les appelle les grossesses précieuses,
oui,
justement parce qu'elles sont peut-être plus fragiles.
Alors, pas particulièrement, en tout cas jusqu'à 45 ans. C'est ce que nous détaille le professeur Philippe Desruelles. Il est le secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens français.
Après 40 ans, il y a 20 ans, on était un peu presque scandalisés, presque très agressifs avec ces femmes qui avaient une grossesse au-delà de 40 ans. Des grossesses entre 40 et 43, 44 ans, c'est devenu un fait de société presque banal et on a véritablement presque désacralisé cette situation. Il y a une augmentation des risques, mais qui n'est pas majeure entre 40 et 45 ans. En revanche, au-delà de 45 ans, il y a un vrai gap majeur avec une très forte augmentation du risque pour la grossesse, mais aussi du risque de mortalité maternelle, mais aussi de morbidité, c'est-à-dire le risque de complications est vraiment très important. Que dire des grossesses au-delà de 50 ans, c'est encore pire. Le problème de entre 40 et 45 ans, je dirais que c'est pas tellement le problème du risque de complications, parce que en réalité, si une femme n'a pas de pathologie sous-jacente et qu'elle mène une grossesse entre 40 et 45 ans, malgré tout, aujourd'hui, on a assez de données pour dire que oui, en effet, les risques sont multipliés par 2 à 3 globalement, c'est le diabète, l'hypertension. Mais malgré tout, on parle de risques qui sont au départ très faibles.
Alors jusqu'à 45 ans, ok, on a bien compris, mais Birgit Nielsen, 54, là ça devient beaucoup plus problématique.
Ah oui, après 45 ans, le nombre de grossesses spontanées, c'est-à-dire sans traitement, chute considérablement, hein, moins de 20% de chances de tomber enceinte naturellement après l'âge de 45 ans. Et ce n'est pas pour rien que la PMA en France n'est pas remboursée à partir de 43 ans. Donc après 45 ans, après 43 ans pour être précise, ça implique des traitements contre l'infertilité. Et dans ce cadre-là, les médecins sont unanimes. Il n'y a pas d'âge limite, mais au-delà de 45 ans, une femme entre dans une zone où la grossesse devient dangereuse. Ça devient une grossesse à risque, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Au-delà de 45 ans, on fait appel le plus souvent d'ailleurs à un don d'ovocytes.
vos sites.
On connaît déjà le prénom du bébé, ce sera Aimé, Désiré, Bienvenue.
Certainement.
Merci Elisabeth, excellent week-end, on vous retrouve lundi. Et nous, dans un instant, on va se mettre au sport, mais au sport gratuit. Banc public, grille de parc ou encore abribus. Pourquoi ne pas utiliser le mobilier urbain? Ce sera la bonne idée de cet après-midi.
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
On parle cet après-midi de gym, d'activité physique, on parle de sport. D'ailleurs, ce serait bien qu'on arrête d'en parler, mais qu'on s'y mette. On est avec nos deux invités, le docteur François Dufaurez, médecin du sport. Et nous sommes avec Hélène Bossé, ancienne championne d'athlétisme. Son livre, Macadam Training, vient de paraître chez Solar Edition. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Hélène, c'est vrai que votre élève le plus âgé, il a 92 ans, ou c'est encore un coup de pub, de marketing de votre éditeur?
Non, c'est vrai, c'est vrai. Il est vrai que le Macadam Training s'adresse aussi à un public de seniors, seniors plus. Donc 92 ans, c'est vrai que ça peut paraître âgé, mais il suffit d'adapter les parcours santé pour ce type de personnes et c'est tout à fait plausible d'avoir encore aujourd'hui une activité physique à cet âge-là.
Docteur Dufaurez, on va revenir sur cette étude qui est parue, je crois que c'était la une du Parisien, et qui disait qu'en faisant une activité physique, en essayant déjà de se bouger de sa chaise, je crois que les Français sont assis sur leur chaise 7h24 par jour, on avait quand même une promesse qui était 3 ans de vie en plus.
Oui, alors il n'y a pas que d'être debout, il y a aussi de marcher, hein, c'est-à-dire de faire activer tout le système cardiovasculaire. En attendant... Ce que cette étude, c'est Attitude Prévention hein, qui est sortie, c'était une étude européenne et qui montre qu'il y a des gradients déjà en fonction de la culture des gens. C'est-à-dire que les Finlandais, par exemple, ils sont moins assis que les Britanniques. Les Britanniques, c'est une catastrophe. Hein.
Plus de 8 heures, je crois que c'était pour eux.
Exactement.
On n'est pas les pires.
Plus de 8 heures, on n'est pas les pires. Bon, on est généralement au milieu du peloton. Bon, c'est pas toujours très glorieux, mais en attendant, ça veut dire aussi que la technologie, le mode de vie urbain, devant les écrans, commence à modifier la physiologie humaine et non seulement modifie la physiologie mais aussi les comportements. Et c'est pour ça qu'il y a une belle différence maintenant entre des gens qui pratiquent du sport mais qui peuvent être sédentaires parce qu'ils ont un métier qui fait qu'ils sont assis trop longtemps, assis au bureau, assis dans les transports en commun, assis dans les loisirs quand ils vont regarder la télévision ou des smartphones ou des choses de ce style-là et couchés quand ils dorment. Et ça, ça fait beaucoup et donc ça modifie la physiologie humaine.
Est-ce qu'il y a quelque chose, en tant que médecin, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêcherait, bon, à part la flemme, hein, qui nous empêcherait de faire du sport à 90 ans?
Il y a ces notions de dépendance quand même, parce qu'à partir d'un certain âge, malheureusement, il va y avoir des problématiques de santé qui peuvent arriver, et essentiellement de deux ordres. Le premier, c'est la dépendance physique. Si évidemment vous avez des problématiques locomotrices, c'est-à-dire des rhumatismes, des fractures du fémur et ainsi de suite, cette dépendance physique va vous empêcher de bouger, je dirais, naturellement. La deuxième chose, c'est la dépendance psychique. C'est ce qu'on appelle tous les syndromes neurodégénératifs, où les gens vont perdre la mémoire, la concentration, et c'est le rapport à l'autre qui va être problématique. Et là aussi, ça pose problème. Il n'empêche que dans les EHPAD, et c'est aussi un sujet d'actualité, eh bien maintenant... On sait que la stimulation, qu'elle soit physique, neurologique, mentale, par le mouvement et par l'activité physique, a un rôle thérapeutique.
Travailler l'équilibre, Hélène, c'est ce que vous faites avec le Macadam Training. J'aimerais bien, alors avant de rentrer dans le détail de cette méthode qui est géniale, parce qu'il n'y a même pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport, c'est la rue, c'est la ville qui est là pour nous faire faire de l'activité physique. J'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire. C'est l'histoire, c'est la rencontre de deux femmes avec deux profils complètement différents.
Deux profils complètement différents, effectivement. La première femme, elle fait ces cours-là pour chercher à perdre du poids. La deuxième femme, elle cherche à devenir championne d'Europe de pentathlon en salle. Ça se passe en 2011. Et les deux femmes se retrouvent finalement dans le parc de Bercy. Et leur point commun, c'est que je m'occupe de toutes les deux. Cette dame qui cherche à perdre des kilos et qui est pour cela obligée de monter les marches des escaliers de Bercy.
Elle a 60 ans.
Elle a 60 ans, voilà. Elle cherche à se faire du bien, à améliorer effectivement sa condition physique, sa santé. Et en parallèle, on a Antoinette Nanajimou qui, elle, cherche à gagner sa première médaille de championnat d'Europe de pentathlon. Et ces deux femmes, je les ai entraînées toutes les deux. Antoinette à ses débuts, puis je l'ai retrouvée après. Mais à cette époque-là, il est vrai que je me suis rendu compte que je faisais le grand écart entre ces deux femmes et je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser, utiliser le monde de la préparation physique pour rendre cette pratique finalement accessible à monsieur et madame tout le monde.
Les deux ont réussi.
Et les deux ont réussi, oui, il est vrai.
Une silhouette qu'elle n'espérait plus.
Elle a perdu 9 kilos, tout à
une
fait.
Une compète et des résultats qu'elle n'espérait pas non plus.
Voilà, et l'autre, le 4 mars 2011, elle devient championne d'Europe de pentathlon. Et c'est suite à ça que ça m'a boostée. J'ai déposé cette idée de concept de parcours santé pour tous à l'INP. J'ai trouvé ce petit nom, Macadam Training, que je trouvais sympa, et puis l'aventure a commencé.
On va continuer à parler sport cet après-midi, on va vous suivre dans cette idée très futée d'utiliser le mobilier urbain, parce qu'en plus c'est gratuit. Alors mais que fait-on avec quoi? Que fait-on avec un banc, un réverbère, un abribus, une grille de square, un arbre? Chacun a son utilité, on en parle dans un instant.
La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin.
On parle cet après-midi de gym, de nouvelles méthodes peut-être avec le docteur François Dufaurez, médecin du sport. On est avec Hélène Bossé, ancienne championne d'athlétisme, devenue entraîneur et qui vient de publier chez Solar Edition Macadam Training. L'idée d'Hélène, François, c'est de faire du sport en extérieur. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est mieux pour nous?
La réponse est oui. Ça vient des neurosciences. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'une activité physique qui amène une augmentation des sens au niveau sensoriel a un effet non seulement sur le corps, mais aussi sur le cerveau, ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire qu'on refabrique du neurone ou on le restimule de manière à justement progresser, quel que soit l'âge, et ça se fait plus facilement à l'extérieur parce que justement il y a des stimulations qui sont totalement différentes en termes d'odeur, en termes de mobilier, en termes d'arbres. Vous parliez de jardin public, eh bien les arbres, on sait que c'est un peu d'actualité aussi sur ces notions sensorielles. Un arbre ou un parc public au printemps, c'est pas les mêmes odeurs qu'à l'automne, et tous ces effets de stimulation ont un effet bénéfique pour la santé et pour le cerveau.
Hélène, vous expliquez très clairement que tout commence par un planning, encore faut-il s'y tenir. Vous dites qu'il faudrait 2 séances de 1 heure par semaine. J'aime beaucoup votre calcul parce que vous expliquez qu'on dort en moyenne 8 heures par nuit. Mmh. Qu'il nous reste donc à trouver 2 heures sur 112 heures hebdomadaires. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est que des feignasses.
Tout à fait. C'est un petit calcul finalement très sympathique pour se rendre compte que finalement 2 heures par semaine, c'est pas grand-chose. Et qu'il est donc, à partir de là, facile de s'adonner à l'activité physique. Faut juste se mettre des petits coups de pied aux fesses, et puis chausser ses baskets et descendre dans le square d'en bas.
Dans votre livre, il y a plein de petits dessins, hein, il y a plein de silhouettes. On voit que la silhouette, elle est quand même super bien gaulée, ce qui n'est pas notre cas. Et on se dit, mais à tout âge, et quelle que soit ma silhouette, est-ce que je peux aller dans la rue et faire des pompes sur un banc ou faire des squats
Oui, alors d'ailleurs, j'en profite pour vraiment saluer le travail de Ashurid, l'illustratrice, qui a bien reproduit effectivement les photographies que je lui avais envoyées. Et donc, à partir de là, c'est des petits personnages très athlétiques, effectivement, ces petites femmes. Mais tout le monde doit se sentir concerné. En fait, on peut très bien faire un travail de renforcement musculaire en utilisant son poids de corps. Mais ce poids de corps, on peut l'alléger en faisant preuve d'astuce. Si vous faites des pompes contre un arbre, si vous faites des pompes sur le dossier d'un banc, il y a moins de contraintes musculaires, parce qu'il y a moins d'angulation.
Faire des pompes contre un arbre, ça veut dire appuyer mes deux mains sur l'arbre.
Tout à fait, et fléchir ses bras. Et donc, à partir de là, comme vous êtes quasiment en position verticale, il n'y a pas de poids de corps sur l'ensemble de vos pectoraux et de vos biceps. Et à partir de là, il est plus facile de se redresser sur une position quasiment verticale. Donc, tout le monde est concerné par ce petit ouvrage. Il y a des moyens assez
Pourquoi
astucieux.
Pourquoi il n'y a pas les garçons?
C'est un choix de l'éditeur, mais ça concerne également les garçons.
C'est parce que l'éditeur, il voit le tome 2. Il se dit, bah, l'année prochaine, on fait les garçons.
Non, ça concerne également les hommes. Ça concerne aussi les enfants à partir de 8 ans, 9 ans qui peuvent effectivement s'adonner à ce genre de programme parce que c'est des alignements segmentaires qu'il faut respecter. À partir de là, il n'y a aucun danger. Donc tout le monde est concerné par ce petit ouvrage.
François, on s'entraîne exactement de la même façon. Tout ce qui est dans le livre, les pompes contre les arbres, les squats sur le banc et les abdos aussi, tout ça, on peut le faire, homme ou femme.
Ah ben moi je suis un pratiquant, donc vous prêchez un convaincu. Hein. Depuis 23 ans, j'ai un petit groupe, et on vieillit ensemble, où on pratique ces choses-là. Hommes, femmes et même les enfants, puisque ça se fait souvent en famille, et c'est ça qui est aussi agréable. Je voudrais simplement dire que l'excuse du manque de temps, c'est ce qui vient souvent au début. Et l'intérêt de ce type d'activité, c'est un, de voir que les contraintes matérielles, elles n'existent pratiquement pas, et que si on crée une dépendance, une addiction à ce type d'activité, bah c'est une bonne dépendance et c'est une bonne addiction. Donc c'est ça qu'il faut réussir à créer, parce qu'ensuite il n'y aura même plus d'excuses. J'ai pas le temps, il faut que je le fasse parce que ça me fait du bien.
C'est même pas la peine d'aller dans une salle de sport, de prendre un abonnement, rien, il suffit de sortir de chez soi.
Sortir chez soi, je pense que l'effet groupe aussi est important. Parce que il y a, c'est vrai, des gens qui ont une réflexion un peu plus solitaire et ça leur pose pas de problème de le faire tout seul, tant mieux pour eux, mais généralement ceux-là, la motivation, ils l'ont. La problématique, c'est quand les gens ont besoin de quelqu'un pour le faire. Et dans le parc où moi j'habite, et je vois une évolution quand même. Et de plus en plus, des gens, je vois des groupes, c'est pas des aborigènes, hein, c'est vraiment des gens de tous les âges, avec souvent un coach quand même. Hein. Il y a un leader qui est là, que ce soit un professionnel ou pas. Et c'est des gens de 5-10 personnes qui se retrouvent régulièrement. La régularité est vraiment importante dans les repères qu'on peut se donner.
Deux spécialistes avec nous cet après-midi pour nous aider à devenir les champions de notre vie, et ce à tout âge, parce qu'on a une ennemie qui va arriver sournoisement avec le temps. Elle s'appelle la sarcopénie, ou plus exactement la fonte musculaire. Et le problème, c'est qu'elle se réinvite tous les 10 ans. On en parle avec nos invités.
La vie devant soi sur Europe 1.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
On parle cet après-midi de gym, d'activité physique, de sport avec nos deux invités. Hélène Bossé, ancienne championne d'athlétisme qui a entraîné l'équipe de France d'heptathlon. On est également avec le docteur François Dufaurez, médecin du sport. On va parler de la sarcopénie parce que c'est vrai aussi que se muscler, c'est un peu essayer de retarder l'inévitable, cette fonte musculaire qui nous guette et qui revient régulièrement. On perd à chaque fois un peu plus.
Oui, c'est lié tout simplement au phénomène de vieillissement. C'est pour ça que ce type d'activité, c'est aussi une prévention d'aller vers un bon vieillissement. Ce qui est quand même intéressant et qu'on ne sait pas trop, c'est qu'on pense que souvent activité physique, c'est que cardio. Et le fait de gagner au niveau cardio ou de progresser, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Alors que le muscle, il a une capacité extraordinaire, c'est quand on le stimule, il réagit vite, et quel que soit l'âge. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, mais de le commencer vite. Et là, c'est pas d'attendre d'être à la retraite pour commencer à stimuler le muscle. C'est peut-être un peu trop tard. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire toute la vie.
Comment savoir si on s'entraîne efficacement? Hélène, vous dites que le bon signal, c'est quand le muscle picote.
Oui, alors ça, c'est un terme qu'on emploie souvent en musculation, mais aussi dans le renforcement musculaire. Au bout d'un certain temps, effectivement, le muscle est comme endolori par l'arrivée de l'acide lactique, entre autres. Il y a une forme de, comment expliquer, de contracture musculaire, enfin c'est pas tout à fait le terme, mais de spasme qui provoque à un moment donné une forme de douleur. Le muscle s'habitue à cette forme de douleur, donc il faut le surprendre en travaillant souvent différemment. Il n'y a pas qu'une façon de travailler ce muscle, mais on peut jouer sur des tempos différents de contraction musculaire, on peut jouer sur des contractions concentriques, excentriques, j'en parle dans ce petit ouvrage, sur des contractions statiques. Alors souvent les gens savent le faire, ils le font d'ailleurs sans trop connaître les bénéfices, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette contraction musculaire, il faut la surprendre en la travaillant de façon différente.
Là aussi, on va essayer de voir si c'est un cliché ou pas, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vous disent « non, non ». Le sport, ça fait pas mal. Tu n'as pas besoin d'avoir mal pour que ce soit efficace. Et ceux comme Hélène qui disent « Ah ben non, faut que ça picote un peu. Il faut avoir un peu mal pour qu'on soit sûr de l'efficacité de ce qu'on est en train de faire. »
C'est vrai que les anglo-saxons disent « no pain, no gain ». Bon, il n'empêche que là, c'est un problème de sémantique. Si on n'en fait pas assez, bah, c'est pas assez productif. Si on en fait trop, ça peut être dangereux. Et on oscille entre ces deux choses. Donc, dans la notion de douleur, c'est aussi très individuel. Il y a des gens qui disent avoir mal dès qu'ils marchent. D'autres, il faut qu'ils aillent vraiment dans des sommets très importants. Je pense que la notion d'inconfort est intéressante. C'est-à-dire que faut sentir quelque chose qui n'est pas confortable, mais qui n'est pas extrêmement douloureux. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est vrai.
Les alertes aussi, Hélène, vous expliquez qu'on sait quand on est allé trop loin, quand on a trop tiré sur la corde. Par exemple, quand à la fin de l'exercice, à la fin d'une course, on a envie de vomir. C'est vrai que c'est les marathoniens, on les voit beaucoup sur la ligne d'arrivée. Ils vomissent tripes et boyaux parce que je pense qu'ils sont allés au bout.
Alors, il peut y avoir plusieurs phénomènes à ce niveau-là. Un, c'est une mauvaise hydratation, nutrition qui crée des problèmes digestifs. Donc là, ça peut arriver. Et je dirais, c'est une mauvaise gestion de l'activité physique. Après, ce que vous décrivez, c'est quand on a été au bout de l'effort, dans le dernier kilomètre. Et là, il n'y a pas besoin de faire un marathon. Vous pouvez faire un 400 mètres à fond. Et puis, vous allez aussi avoir peut-être envie de vomir. C'est-à-dire que on a été un petit peu trop loin dans l'activité physique. Et le frein, ce qu'on appelle le système parasympathique, qui est le système de régulation, va freiner très fort. Et c'est à ce moment-là, il peut y avoir des effets secondaires de type digestif.
En revanche, ça il faut le dire, pour tous ceux qui disent « Ah mais moi je deviens tout rouge quand je fais du sport », c'est pas du tout un signal de danger. Non, être rouge et être essoufflé, ce serait
c'est
même
normal.
Plutôt bon signe.
Tout à fait, c'est normal. Non, non, les signaux d'alerte, c'est effectivement cette envie de vomir, c'est nausée, mais c'est aussi une couleur de visage blanchâtre, hein, qui est le signe que vous êtes en train de basculer dans un système anaérobie lactique. Alors c'est pas très grave, hein, on n'en meurt pas, mais simplement vous n'êtes plus dans un système d'endurance proprement dit, d'aérobie. Vos cellules ne sont plus oxygénées et à partir de là, vous faites un autre type de travail, de résistance. On n'en a pas trop besoin, c'est plus pour l'entraînement des sportifs pour faire de la performance. En revanche, il faut chercher à se maintenir dans un travail d'endurance aérobie qui se manifeste par un visage rougeâtre.
Une petite remarque simplement, parce que quand on parle de douleur, il y a aussi des âges un peu plus à risque que certains, dépassés peut-être un peu plus à risque, donc des douleurs de type thoracique, oui. Des douleurs de mâchoire, des douleurs dans le bras gauche. C'est quand même bien d'être plus prudent et d'aller consulter. Oui, tout à fait.
Transpirer, c'est bon signe aussi.
Oui. Et alors,
ceux qui font du sport et qui ne transpirent pas, c'est qu'ils ne bossent pas assez.
Je ne dirais pas ça, parce qu'il y a une répartition génétique.
Vous avez fait le Quai d'Orsay, vous. Hein.
C'est peut-être une reconversion, j'en sais rien. Mais enfin bon. En attendant, je ne dirais pas ça parce qu'il y a une répartition différente de la transpiration chez les gens, génétique. Il y a des gens qui transpirent énormément, et ce n'est pas pour ça que c'est mauvais. Et puis d'autres qui transpirent un peu moins. Donc déjà, génétiquement, les glandes sudoripares, on n'est pas tous équivalents. Mmh. Et un deuxième point qui est sur une étude très récente, c'est qu'on voit de plus en plus de gens tatoués. Eh bien, le tatouage diminue la transpiration, donc ça n'a pas un effet négligeable sur justement la régulation de la température.
Mais et c'est ça, pas mauvais ça.
Je pense que c'est une réflexion qu'on devrait avoir dans le futur. Attention, trop de tatouages diminue la transpiration et c'est pas très bon pour la température interne.
On va se retrouver dans un instant avec nos deux spécialistes et on posera cette question. Alors, marcher, courir, en fractionné ou en continu, c'est excellent pour le cœur, pour l'endurance, mais est-ce que ça fait mincir ?
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin.
On parle d'activité physique cet après-midi avec deux spécialistes, Hélène Bossé, ancienne championne athlétisme et qui en plus maintenant entraîne et qui a entraîné l'équipe de France. Son livre, Mon cahier Macadam Training, vient de paraître aux éditions Solar. On est avec François Dufaurez, médecin du sport. Donc question, marcher. Alors marcher à un bon rythme ou courir, c'est excellent pour le cœur, mais est-ce que ça fait maigrir ? Est-ce que ça fait mincir ? Hélène ?
Oui, tout à fait. Alors, les études récentes ont tendance à montrer qu'il faut se livrer à un exercice de haute intensité pour justement maigrir. Alors que pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait courir longtemps pour obtenir un effet intéressant sur sa silhouette. Aujourd'hui, les dernières études semblent montrer qu'il faut se livrer quand même à des efforts intenses pour perdre en tout cas en poids. À partir de là, il faut changer sa façon de courir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à fractionner les temps de course. Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. N'ayez plus honte de marcher dans une côte si à un moment donné vous vous sentez très essoufflé. C'est pas très grave, hein. C'est juste que vous avez besoin de reprendre de l'oxygène. Ça veut dire que vous avez travaillé peut-être à un niveau d'intensité important, mais à partir de là, vous avez brûlé des calories. C'est ça qui compte.
Quand vous dites en fractionné, ça veut dire quoi comme on court combien de temps, on s'arrête combien de temps ?
Alors il existe plusieurs formes de fractionné, court, moyen, long. Le plus courant c'est le 30-30, courir 30 secondes à 100% de sa vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire à 100% de sa consommation maximale d'oxygène. Alors, on est très loin de la vitesse de sprint, mais c'est quand même une vitesse plus importante que le footing. Et entrecoupé de récupération de 30 secondes, soit en trottinant, soit en marchant. Et il s'agit de faire ça à peu près 10 à 12 fois. Et à partir de là, vous avez un impact réel, non seulement sur le transport de l'oxygène, donc sur la VO2 max, mais aussi sur la tonicité de votre foulée, donc de votre silhouette.
François Dufaurez, fractionner, c'est ce qu'il y a de bien ? C'est ce qu'il y a de mieux ?
C'est ce qu'il y a de plus rentable. Avec une réflexion, et c'est pour ça que j'apprécie que vous parliez de la montée de la marche en côte. Parce que la problématique du fractionné, c'est qu'on est à haute intensité et que parfois, à haute intensité, c'est courir vite et ça peut être traumatisant pour des personnes qui ont des articulations un petit peu moins jeunes. Par contre, la marche, on risque absolument rien. C'est simplement en ayant l'inclinaison d'une côte qui est près de chez vous ou qui peut être un tapis roulant d'ailleurs, hein, pourquoi pas, qui va faire l'intensité au niveau cardiaque, mais aussi au niveau calorique.
Donc, il faut marcher en côte.
Exactement. Voilà.
Vous avez étudié le métabolisme de différents athlètes, puisque en fait, alors vous avez ceux qui courent, les marathoniens, les sprinteurs, bon, ceux qui font d'autres activités. Est-ce qu'il y a des différences sur leur squelette, sur
colossal. D'ailleurs, regardez l'évolution des sauteurs en hauteur, vous allez comprendre que ce ne sont pas des marathoniens comme. Je vais dans l'exemple inverse, les lanceurs, ils ont aussi une conformité. Alors, il y a le côté génétique qui va, je vais vers une activité physique parce que j'ai un squelette qui me permet d'y aller. Par contre, l'entraînement va modeler, et on parlait de silhouette, eh bien, vous allez avoir des morphotypes qui vont se créer parce que l'activité physique modèle cette silhouette et va vous engager vers plus de performance.
On a aussi cette idée qui est un petit peu une revanche pour nous, les anonymes qui sommes un peu fainéants, c'est de se dire que les sportifs de haut niveau, ils vieillissent moins bien que nous. Parce qu'ils ont tellement sollicité leurs articulations, leurs muscles par le passé, qu'en vieillissant, ils ont plus mal que nous.
Ça, c'est pour vous rassurer. Parce
oui, c'est ça. C'est quelque part une petite lueur dans un océan de paresse.
Il y a une étude qui a été faite par le professeur Jean-François Toussaint à l'IRMES, qui a regardé tous les sportifs de compétition qui ont fait les Jeux Olympiques. Et bien, l'espérance de vie de ces sportifs de haut niveau est plus élevée que monsieur et madame tout le monde, de l'ordre de 5 à 6 ans quand même.
Hélène.
Ah oui, tout à fait. C'est beaucoup, 5 à 6 ans.
Oui, c'est important.
Ah oui. Alors maintenant, est-ce que c'est toujours à la condition quand même de s'entretenir après j'ai pas lu cette étude-là, je la connais, effectivement, les résultats sont assez surprenants.
C'est surprenant, oui.
Mais effectivement, c'est plutôt encourageant.
On parle de sport cet après-midi, de se remettre au sport, juré craché, demain. On s'y met, surtout moi. Et d'ailleurs, si on a tant de mal à s'y mettre au sport, c'est peut-être qu'à l'école, on ne nous a pas donné le goût du sport. On est peut-être tous partis du mauvais pied. Et si ça changeait ?
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on est cet après-midi avec Hélène Bossé, on est avec le docteur François Dufaurez. Hélène Bossé, votre livre est paru chez Solar, Mon cahier Macadam Training. Selon vous tous les deux, est-ce que l'on apprend bien le sport aux enfants à l'école ? Hélène.
Alors j'ai envie de dire oui, parce que d'abord je suis enseignante d'éducation physique et sportive, donc je serais mal placée pour dire que non, d'autant plus que je forme les futurs profs de PS. Si, je pense qu'il y a des choses réelles à faire à l'école, ça évolue, les pratiques évoluent, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des pratiques physiques d'entretien qui sont très plébiscitées, mais on reste quand même sur des pratiques sportives et en utilisant le sport, on peut effectivement améliorer sa condition physique tout en faisant de la culture sportive, dissocier les deux.
Vous enseignez à l'université de Créteil, vous formez des professeurs et vous avez eu l'idée d'organiser des parcours santé. Ce qui veut dire que faire une série d'exercices, ça ne suffit pas. Vous trouvez que c'est mieux d'inscrire la personne dans une démarche. Il y a une heure où il va se passer plein de choses. Il n'y a pas de répétition qui forcément est ennuyeuse.
Oui, tout à fait. En fait, pour être plus précise, l'université de Créteil m'a donné l'opportunité de construire un cours entier, un enseignement entier sur ces parcours santé. Et donc, avec les étudiants, on apprend à concevoir et à encadrer des parcours physiques, des parcours de santé sur 1 kilomètre à peu près. Et donc, voilà, ces étudiants pratiquent et alternent la théorie et la pratique et sont armés ensuite pour accompagner des gens, quel que soit leur âge et leur niveau de pratique sur ces parcours-là.
Qu'est-ce qu'on fait sur 1 kilomètre ?
Sur 1 kilomètre, on fait à peu près 7 ateliers de renforcement musculaire.
7 étapes.
7 étapes, voilà, 7 exercices. Le principe de ce Macadam Training, c'est que chaque exercice est décliné en 3 niveaux de difficulté. Et c'est vraiment ça l'originalité de ce concept. C'est-à-dire que tout le monde peut pratiquer à son propre niveau. On peut mélanger dans le même groupe des sportifs, des sédentaires, des personnes âgées et des plus jeunes. Donc c'est un concept intergénérationnel. Très intéressant pour ça.
François ?
Ben là, on associe dans ce type de démarche à la fois la notion de régularité, mais aussi la variété et l'aspect ludique. Donc, on a tous les ingrédients pour se dire, je n'ai aucune raison de ne pas le pratiquer, puisque je le fais régulièrement avec des gens de toutes conditions, de ma famille, d'âge différent, intergénérationnel, vous avez totalement raison. Et puis, je le fais en éventuellement progressant, puisque j'ai des niveaux qui me permettent d'avoir cette motivation, d'avoir cette sensation de progression qui est extrêmement motivante.
Se mettre au sport ou se remettre au sport, c'est généralement la bonne résolution de septembre, du mois de janvier, et ou alors, là comme maintenant, du mois de juin, parce qu'on se dit, oh, j'ai plus qu'un mois avant le maillot de bain. Et ça, forcément, c'est pas la bonne idée. Il faut pas qu'on procède par à-coups. Il faut qu'on soit plus régulier dans notre motivation. Hélène ?
Ah, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous invite à acheter ce petit livre qui est sorti au mois d'avril. Parce que justement.
Faites votre pub. Allez-y.
C'était avec l'idée de préparer la plage, puisqu'il y a 3 programmes qui se font chacun sur un mois. Il y a déjà dans ce petit bouquin des outils qui vous permettent d'évaluer votre niveau de départ. Il y a 5 tests de conditions physiques assez accessibles, même très accessibles. Il n'y a pas besoin de matériel. Ouvert à tout le monde. Facile à faire à l'extérieur. Et à partir de là, vous verrez où vous en êtes. Il y a un petit dessin, un petit graphique à remplir pour voir votre niveau de forme. Et ensuite, vous avez 3 mois de programme devant vous. Et normalement, cet été, vous devez être prête.
Un corps de rêve.
Oui, tout à fait. Jambes galbées, fuselées, c'est parti.
François Dufaurez, on parle de plus en plus d'addiction au sport. C'est un vrai problème ou pas? Ceux qui sont capables d'aller 6 jours par semaine, voire 7 à la salle de gym, soulever de la fonte?
Pourquoi pas? C'est-à-dire que je préfère une addiction au sport qu'une addiction à autre chose. C'est-à-dire que les effets secondaires sont finalement moins importants.
Eh ben, je vais vous parler d'addiction à autre chose, puisque je vais vous garder tous les deux en studio le temps d'accueillir Anne Cazobon, qui aujourd'hui va nous parler de sexe et de Kama Sutra. Elle aussi va nous parler de sport, mais plutôt de sport en chambre. Quoique, pourquoi ne pas tenter l'extérieur? C'est assez inhabituel, Anne. Vous allez nous parler de sexe.
Oui, devant l'insistance de vos dizaines de SMS, de jour comme de nuit, me suppliant de faire descendre au-dessous de la ceinture cette chronique de développement personnel, je m'incline et je rends les armes, Isabelle. Oui, aujourd'hui, je vous parle donc d'amour, mais en conscience. Ah oui, on ne m'achète pas comme ça. Je vous propose donc de tourner notre regard vers l'Inde et de reprendre nos fondamentaux en ouvrant le livre du Kama Sutra. Ou plutôt, devrais-je dire, les livres du Kama Sutra. Parce qu'au total, cet ouvrage cultissime de la littérature érotique ne comprend pas moins de 7 volumes, de quoi caler une armoire normande.
Bienvenue dans le monde merveilleux du sexe. Où de concert, nous allons atteindre des sommets inexplorés jusqu'alors dans l'accomplissement d'une apothéose sexuelle.
Vaste programme. Sauf qu'il est grand temps...
L'apothéose sexuelle.
Grand temps de rétablir une vérité, le Kama Sutra n'est pas un ouvrage dédié uniquement à des postures sexuelles comme on nous le vend. En réalité, la cravate de notaire, le collier de Vénus, le cadenas, le lotus renversé, la brouette thaïlandaise, la grande ours, le héros à ressort, qui requiert une grande souplesse, surtout dans la zone des lombaires, n'occupe qu'une toute petite partie du livre, qui est à l'origine conçu pour aider les amants à vivre en harmonie.
Mais d'où ça vient le Kama Sutra? Qui a écrit ces fameux 7 livres?
Alors c'est Vatsyayana Malananga, un brahman, plutôt un homme d'esprit, donc un religieux, qui a écrit cet ouvrage culte et fondateur au 4e siècle, dans une période particulièrement chaste. Et je me dis qu'on devrait vendre cet argument de poids à tous ceux qui choisissent de se faire une petite retraite spirituelle dans un monastère ou un ashram pour se décoller des écrans, par exemple. Oui, quand on se coupe de quelque chose, on ne sait jamais de quelle nature sera le souffle d'inspiration qui nous traversera. Alors, Kama, pour ceux qui n'ont pas fait sanskrit en LV3, ça veut dire désir, et sutra, c'est l'aphorisme. En fait, au départ, c'était plutôt un texte censé aider les amants dans leur vie amoureuse. On y parle donc de généralité, des arts, des comportements citadins, et puis de l'union sexuelle, des différentes pratiques sexuelles de jeunes filles vierges, comment les séduire, mais aussi des femmes mariées, des courtisanes, et enfin des pratiques dites secrètes, comment être heureux en amour ou réveiller la passion.
J'en ai plein des trucs. Déjà, j'ai 10 doigts. Et les femmes, elles ont 1 500 000 zones érogènes sur le corps.
Voilà. Sauf que si aujourd'hui le Kama Sutra a la réputation d'un livre plein de postures plus folles les unes que les autres, on le doit à un Anglais excentrique qui vivait au 19e siècle, Richard Burton, un explorateur surtout connu pour avoir découvert la source du Nil et qui, bien plus que par ses découvertes géographiques, était intéressé par la vie amoureuse des indigènes qu'il rencontrait durant ses voyages. Alors ce qui est intéressant dans cet ouvrage, et surtout en 2018, c'est d'y découvrir une grande liberté d'être, puisque l'homosexualité masculine comme féminine y est considérée comme naturelle, ce qui tranche fortement avec le puritanisme indien actuel. Et déjà, on y décèle une grande ouverture également de conscience, puisqu'il est écrit que le but de l'ouvrage est celui de permettre la communion mentale au même titre que physique lors de l'acte sexuel. Si les pensées des deux partenaires sont différentes, c'est comme s'il y avait l'union de deux cadavres, peut-on encore y lire. Dans ce Kama Sutra, on nous invite toujours encore à mettre un peu plus de conscience dans ce que nous faisons, aussi dans l'intimité.
Merci Anne pour cette chronique qui a laissé François Dufaurez et Hélène Bossé complètement médusés. Là, je pense qu'ils sont... Hélène, vous êtes contente d'être venue nous retrouver cet après-midi. Je rappelle le titre de votre livre, Macadam Training, donc paru aux éditions Solar. Excellent week-end à tous. Peut-être l'occasion pour vous, ce week-end, de vous remettre au sport. On va se retrouver lundi avec un témoignage extraordinaire, celui d'une femme XY. Une petite fille née avec le patrimoine génétique d'un garçon. Pour autant, aucune ambiguïté. Élodie est née petite fille et c'est devenue une ravissante jeune femme. Elle nous raconte son histoire lundi à 15h. Tous vos rendez-vous d'ici là, avant le week-end, à 17h, Thomas Touroute pour parler foot. Mais avant, et comme tous les après-midi, c'est l'heure de retrouver Christophe Ondelat. Bonjour Christophe.
Bonjour Isabelle. Pour une fois, je vais vous raconter une histoire qui va bien vous faire rire. À la fin, l'histoire du fantôme de Hale Brown, qui a tenu l'Allemagne en haleine pendant 15 ans. Pendant 15 ans, la police allemande a traqué une tueuse en série dont l'ADN a été retrouvé sur une quarantaine de scènes de crime. Une tueuse qui n'arrivait pas à identifier. Et pour cause. Et vous comprendrez pourquoi à la fin de l'histoire, qui est vraiment désopilante.
Merci Christophe. Bon week-end et excellente émission.